du Sower, un dispositif normand assez cool dont tu vas nous parler maintenant, Céo.
Et oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un dispositif qui fait bouger les lignes dans les musiques électroniques en Normandie. Ça s'appelle le Sower et c'est porté par la scène de musique actuelle de Caen, le Cargo. L'idée derrière Sower est assez simple mais essentielle, accompagner des femmes et des personnes trans et non-binaires qui développent un projet artistique dans les musiques électroniques. Parce qu'on le sait, ce milieu reste encore très masculin, que ce soit derrière les platines, en production ou dans les réseaux professionnels. Le programme a été imaginé comme un parcours d'accompagnement sur une année complète. Les participantes sélectionnées suivent des ateliers, des temps de mentorat, des rencontres professionnelles et bénéficient aussi d'opportunités de diffusion sur scène. Le fonctionnement est assez simple. Les sessions commencent en juin et se terminent en juin de l'année suivante. Une fois par mois, les participantes se retrouvent au Cargo un mardi soir de 18h à 20h. Chaque rencontre aborde un thème différent, toujours avec des intervenantes spécialisées. Par exemple, il peut y avoir des rencontres avec une coach vocale spécialisée dans la santé mentale, et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'on parle souvent de la technique ou de la visibilité de la musique, mais on parle moins du rapport à soi, au stress, à la confiance et à la pression artistique. Il y a aussi des sessions plus pratiques, comme de l'administratif pour apprendre à devenir indépendante, comprendre comment structurer un projet et gérer son activité. Les ateliers de il y a aussi des ateliers de production MAO, donc musique assistée par ordinateur, des sessions autour de la communication et des réseaux sociaux, et même un travail sur la posture scénique et le lip-sync avec une drag queen et une intervenante en théâtre. Ce qui ressort beaucoup de ce dispositif, c'est le côté collectif. Tout se passe au Cargo, et au fil des mois, les participantes créent un vrai réseau entre elles. Elles échangent des conseils, des contacts et des opportunités. Dans un milieu où beaucoup d'artistes peuvent parfois se sentir isolés, ça change énormément de choses. La première édition a accompagné plusieurs artistes normandes avec des intervenantes reconnues dans le milieu venant aussi bien de la production musicale que de la communication ou du booking. Et je trouve ça très important de mettre en lumière ce genre d'initiative parce que derrière les concerts et les DJ sets, il y a aussi tout un travail de transmission et de mise en confiance et de création de réseaux. Et c'est souvent ce qui permet à des projets artistiques d'exister durablement. Dans la continuité du Sower, l'association Go With The Rhythm organise une soirée le 6 juin au Bazar Naum à Caen, au programme des DJ sets et des concerts d'artistes queer et de femmes, dont notamment Nemera qui clôturera cette émission avec son morceau Deserve To Be après l'intervention de Willow.
Merci pour la présentation du Sower, CO. Je vous invite bien sûr à vous renseigner sur les gagnantes de l'année dernière et de jeter un coup d'œil à celles qui vont le gagner cette année. Notre émission touche bientôt à sa fin. Comme d'habitude, on terminera sur un morceau et on vous passera celui donc de Nemera, Deserve To Be, qui fait partie des gagnantes du Sower de l'année dernière. Mais avant de se quitter, on se doit de vous donner les dates de quelques prides qui se dérouleront en Normandie, parce qu'on arrive sur le mois des prides, et bien sûr, allez-y, allez soutenir la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+, c'est important, nécessaire. Parce que c'est quel genre d'absurdité de vivre dans une société dans laquelle les artistes dont on vous a parlé aujourd'hui, mais aussi CMO et moi, n'avons pas les mêmes droits que les personnes hétéro-cisgenres. Donc, vous pourrez vous rendre à Cherbourg le 30 mai, à Vernon ou à Caen le 13 juin, à Lisieux le 27 juin et ici à Rouen le 20 juin. Vous pouvez retrouver toutes ces dates et d'autres sur le site Gay Viking qui répertorie et communique toutes les informations nécessaires concernant les Pride Normandes 2026, Gay Viking, un viking homosexuel quoi. Merci encore Céo de m'avoir accompagné pour cette émission, ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça avec toi. Comment t'as trouvé tout ça ?
Ben, j'ai trouvé ça assez complet, c'est assez satisfaisant parce qu'on a parlé de plein d'artistes de Normandie et la petite intervention au milieu où en plus on a pu parler des espaces, un petit peu dans la continuité de ce que tu parlais sur Fish Talk, je trouve que c'est aussi dans leur démarche, c'est très inspirant sur plein de choses. Non, franchement ça m'a fait vraiment plaisir d'être là, de prendre ce temps et puis c'était un exercice très agréable.
Trop bien. Peut-être qu'on se refera ça une prochaine fois, qui sait. Merci, comme d'habitude, à Nico et Marianne de Radio HDR qui me permettent de faire cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain, le dernier vendredi du mois à 16h pour une nouvelle émission. On se quitte sur le morceau Deserve To Be de Nemera. Allez en Pride, écoutez de la musique queer, soutenez vos artistes queer locaux. À la prochaine. Thank you.
have chosen to no longer be apologetic for my femininity and my femininity, and I want to be respected in all of my femininity because I deserve to be. Because I deserve to be. Deserve to be. Chosen to no longer be apologetic for my femininity and my femininity, and I want to be respected in all of my femininity because I deserve to be.
Radio HDR,
le mix
des cultures,
de toutes les cultures,
sur le 99.1 FM. HDR.
7h de l'après-midi.
Les 17h, vous êtes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Pieds dans la Lune, épisode 3, les guimauves et pâtes de fruits de chez Fanny Pâtisserie frétillent sous la lave incandescente du plateau. Miles Davis aurait eu 100 ans il y a 3 jours, sa musique nous accompagnera durant toute l'émission. Notre invitée Cécile Coulon attend son heure, surveillant tout départ de mutinerie. Sophie, Iman, Sophie, Raphaël, Amy, Nicolas sont en place. Nous avons les pieds dans la lune mais le cœur bien sur terre. Allez, c'est parti!
On vous parle musique live et musique studio aujourd'hui. Le festival Rush revient du 4 au 13 juin dans l'agglomération de Rouen avec des musiques du monde, de l'électro, du blues, de la salsa, du rock. On t'écoute Benoît.
Il y a bien longtemps, lorsque je fus jouvenceau en pays de Caux, avant même l'avènement des radios libres, quand on prononçait le mot culture, les élus du coin, encore fraîchement nostalgiques de l'OAS et du SAC, Service d'Action Civique, sortaient leurs fusils, au sens très littéral du terme. Aujourd'hui, leurs héritiers, nombreux, brandissent le déficit public écrit « baisse de subvention ». Certains, de plus en plus rares, continuent d'évoquer les vertus de la culture, la nécessité et le droit d'accès à la culture pour tous, oubliant au passage que cet accès implique souvent de sortir un petit billet de 30 euros, ce qui, disons-le, relativise forcément le « pour tous ». C'est dire que dans ce contexte, lorsqu'une proposition de qualité, accessible et vraiment gratuite voit le jour, il convient d'en faire la promotion et de s'y précipiter. C'est le cas du festival Rush, le bien nommé, puisqu'en bon nord-anglais, langue en cours d'invention, Rush signifie « se précipiter ». Alors précipitons-nous sur ce festival qui se tiendra le jeudi 4 juin et au samedi 13 juin en différents lieux de l'agglomération, tous accessibles en transport en commun. Toute la programmation se trouve sur le site rush.le106.com et se trouvera sur la page Facebook des Pieds dans la Lune, mais qu'il me soit permis de relever deux temps dans cette belle programmation. Le premier se déroulera le vendredi 5 juin à 19h et 22h dans le cadre du Cirque Théâtre Cartier dont Raphaël nous parlera en deuxième partie d'émission avec le groupe Taming Crest à 19h et à 22h le groupe Kylie Minogue qu'il nous tarde d'entendre tant ce groupe me semble propre à faire onduler avec frénésie nos corps et nos esprits, ce qui dans l'époque nous ravit d'avance. Plus intérieur, poétique et folk sera la programmation du samedi 13 juin, de 17h à 21h. Nous pourrons entendre 5 femmes artistes, compositrices et interprètes dans la forêt monumentale de Canteleux, accessible en T3, qui, rappelons-le, est gratuite le samedi. Une belle idée hautement symbolique qui associe femmes, artistes et forêts. Si l'on en croit le regretté botaniste Francis Allais, c'est grâce aux arbres et forêts que la vie humaine a pu s'installer sur Terre. C'est aussi grâce aux femmes qu'elle peut continuer d'exister. Il n'est pas déraisonnable de penser que la survie de l'humanité passe par ces deux sources de vie, les femmes et les forêts. Malgré cela, de nombreux hommes, vous savez, ceux avec un petit H, s'échinent à massacrer ou martyriser l'une et l'autre depuis des siècles. De plus, si l'on en croit la très attendue Cécile Coulon, la forêt est un peu le refuge ultime pour se protéger de toute forme de malveillance et de rejet par les autres. Alors, plantons des arbres et en attendant qu'ils poussent, allons écouter ces 5 artistes, Marianne Perrudin, Adélis, Zoé Esselton, Claire Daze, Gwenifer Raymond, le 13 juin. À propos d'artistes femmes, je ne peux m'empêcher de signaler le bel album sorti récemment de Mosoko Gilles, poète, chanteuse, batteuse de jazz, un bel album tout en poésie musicale. Nous en écouterons un morceau, When Palestine is Free, pour clôturer cette émission. Et j'ai évidemment très envie de reparler de Zagat, l'album de Swad Massi, album que nous avions encensé ici même lors de sa sortie. Manifestement, nous ne sommes pas les seuls, puisqu'il a été élu meilleur album jazz de l'année. Choix pertinent, on en écoute un morceau, morceau interprété par Swad Massi et Gaël Faye, d'ici, de là-bas. الدنيا يسقسوني على لون عيني منين منين أصلي منين ما شافوا واش غرست يديا والشمس تحرق فيا وراج فيا في الطين في راسي حكاية فايدة وفي أرضي كنوز ردة عطيني قدم شنو اللي حب
Je recommande une série française ultramarine et ultra bien diffusée sur Netflix, Bandit, qui raconte le quotidien d'une fratrie martiniquaise livrée à elle-même après la mort de la mère Imane.
C'est une série qui est sortie sur Netflix le 9 avril dernier, donc ça fait maintenant un mois et demi, presque deux mois qu'elle est sortie, mais je voulais quand même vous en parler ce soir. Elle a été créée par les producteurs de la série Le Bureau des Légendes, qui a eu un certain succès en France, Éric Rochant et sa fille, Capucine Rochant. L'histoire est assez simple, Sophie vient de vous le pitcher rapidement. Une fratrie de 11 enfants, âgés de 7 à 25 ans, se retrouvent du jour au lendemain livrés à eux-mêmes après la mort brutale de leur mère. Pour survivre, les plus grands se mettent à tremper dans le trafic de drogue. Si je tenais tant à aborder ce sujet ce soir, c'est parce qu'il me touche assez particulièrement. Donc je ne suis pas martiniquaise, mais saint-martinoise. Et l'enjeu de représentation, il était assez important, en tout cas pour moi. Je salue d'ailleurs le travail de tous les acteurs, des équipes et du co-auteur Chris Burton, qui a permis de mettre en lumière l'île de façon assez authentique. Je sais que c'était un peu leur objectif. La production et la réalisation d'une série comme Bandit, pour moi, a permis d'ouvrir la voie aux futures générations, donc ici caribéennes, mais plus largement à la communauté noire, de créer et de montrer leur propre réalité sur leur territoire. C'est une série de divertissement, comme il en existe beaucoup, mais celle-ci, elle a un goût particulier. Elle a complètement, je trouve, en tout cas pour moi, rempli son objectif, tout en abordant certains sujets très actuels de l'île, comme la précarité, la drogue, la violence. Évidemment, ça ne se résume pas qu'à ça. On a eu aussi d'autres thèmes, comme la monoparentalité, donc la mère Lafleur qui a élevé ses 11 enfants seuls, la fraternité, la loyauté et plein d'autres. Avec Bandit, comme je vous l'ai déjà dit, il y a eu
Et il y a toujours un enjeu de montrer l'île, mais cette fois-ci sous un angle plus contemporain, le quotidien des Martiniquais à travers des visages, des lieux, des situations et des relations assez sincères, authentiques, notamment la solidarité entre les frères et les sœurs. C'est la première série qui est diffusée sur Netflix et qui montre la Martinique. Ça a été porté par une équipe en partie locale, un vrai tournant pour l'intégration des îles caribéennes dans le paysage cinématographique audiovisuel. Cette fois-ci, on n'utilise pas la Martinique. Bon, ici, c'était la Martinique, mais ça aurait très bien pu être la Guadeloupe ou plein d'autres îles qui sont un peu moins connues. Comme un simple décor, on la voit souvent sous le prisme, comme je dis, carte postale un peu paradisiaque, ou même sous le prisme de l'esclavage, malheureusement. Et d'ailleurs, petit point actu, hier, le code noir a été enfin abrogé après presque 180 ans, ça fait 180 ans, pardon, que l'esclavage a été aboli. Donc voilà, je trouvais ça assez important. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le discours du député Stevie Gustave, je vous invite à le faire tout de suite. Personnellement, j'ai bien aimé Bandi, hein, j'ai même beaucoup aimé. Je l'ai regardé en deux jours et j'ai accroché assez vite, peut-être parce que j'avais pas mal des références qu'il y avait dedans, mais en me renseignant et en lisant plusieurs articles, je me suis rendu compte que pas mal de personnes avaient regardé le premier épisode, mais c'était arrêté après. Donc si j'avais un petit message à faire passer à nos auditeurs, que vous soyez, que vous ayez commencé à regarder ou que vous n'ayez pas encore regardé, faites-le, je pense que vous ne le regrettez pas, c'était un bon divertissement. Et soutenir ce projet, c'est aussi montrer à Netflix et aux producteurs et même aux réalisateurs qu'il faut continuer à investir dans des œuvres comme Bandi.
Voilà, merci Imane. Bandi sur Netflix, hein, qui est accessible déjà depuis le 9 avril, hein, je crois, et qu'on vous recommande donc de regarder. Une autre recommandation de lecture maintenant, Benoît, Jérôme Ferrari et sa très brève théorie de l'enfer.
Initialement, j'avais très envie de vous parler de Gabriel Filto-Shiba et son dernier recueil de poésie, La robe en feu. Je crois prudent de reporter cela à la prochaine émission. Trop de soleil, même pour les piétons lunaires que nous sommes, pourrait finir par brûler. Je vais donc vous parler de Jérôme Ferrari, que l'on pourrait aussi classer dans la catégorie soleil de la littérature, mais disons dans le genre soleil noir. Je m'empresse de dire, malgré ses propos peu avenants, qu'il s'agit d'un de mes auteurs préférés, en tenant compte du fait que mes auteurs préférés, les plus préférés, sont toutes des autrices, mais il convient toujours d'avoir une exception ou deux, peut-être, on peut être féministe, pour être féministe, nous n'en sommes pas totalement misandres. Jérôme Ferrari a des constantes dans l'organisation narrative de ses fictions. En général, cela démarre plutôt mal. Dans le développement, les choses empirent un peu, pour se conclure en fin de roman dans une apothéose de noirceur vaguement définitive. Il y a un petit côté divine comédie de Dante, une divine comédie où en place et lieu de l'enfer, du purgatoire et du paradis, on aurait l'enfer, l'enfer et l'enfer. Le titre de son dernier ouvrage exprime d'ailleurs clairement la couleur très brève théorie de l'enfer. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur, l'exil, en l'espèce celui d'un prof qui enseigne à l'étranger, l'exil et la nostalgie, le tourisme de masse, le colonialisme occidental d'hier, les colonialismes mondiaux d'aujourd'hui, les guerres passées et à venir, les formes multiples d'esclavage, les quêtes de rédemption impossibles, les violences relationnelles, l'attachement contradictoire à l'endroit et à la communauté d'où on vient, les déchirements, la culpabilité, beaucoup de culpabilité. En fait, Jérôme Ferrari éviscère, dissèque avec une virtuosité féroce, l'ensemble des défaites humaines, la sienne comprise. Il y a dans son écriture ce parfum léger et subtil, fait de thym et d'amandier, de figuier et de châtaignier, et là encore ce souffle imperceptible de pain, cette touche d'armoise, ce soupçon de romarin et de lavande. Mes amis, ce parfum, c'est la beauté. Ceux qui n'ont pas la rêve sont priés de lire ou de relire Astérix encore, sinon c'est dur à suivre. La beauté de l'écriture, de la langue, une beauté subtile d'une culture universelle, érudite, qui nous ouvre des portes vers d'autres espaces, trace les chemins où des ombres surgissent, des raies éblouissantes de lumière qui viennent éclairer et alimenter nos quêtes spirituelles. Jérôme Ferrari, très brève théorie de l'enfer, édition Actes Sud.
Aujourd'hui, nous allons parler, Sophie, d'un petit événement dans le monde de l'édition en Normandie, un beau mariage entre l'OREP, basé à Bayeux, et les éditions des Falaises, situées à Rouen. 20 ans après sa création, 250 titres et 100 auteurs plus tard, les Falaises s'allient avec un autre éditeur, l'OREP, 40 ans d'existence, 850 titres consacrés à l'histoire, le patrimoine et le tourisme normand. Les Falaises, de leur côté, sont spécialisées dans les arts, le patrimoine gastronomique avec la collection À la table 2, les catalogues d'exposition, le tourisme avec la collection Sans clé. Les deux mariés sont complémentaires. La petite équipe des Falaises, soit 3 personnes, va ainsi bénéficier des compétences des 14 collaborateurs qui travaillent à l'OREP. Sophie.
On a interrogé Grégory Pic, directeur de l'OREP, et Madalena Marin, gérante des Falaises, sur cette activité d'éditeur. Le livre est-il un objet comme les autres ?
C'est la rencontre, je crois, d'un auteur avec un éditeur, d'un sujet aussi avec un éditeur. Mais je pense à quelques exemples où le sujet était formidable, mais le courant n'est pas passé avec l'auteur ou l'autrice. Donc ça peut arriver. Et du coup, bah, peut-être qu'il ne faut pas faire les choses ensemble. Il faut peut-être que l'auteur aille voir un autre éditeur, tout simplement. Et puis des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire que le sujet, on se dit, bon, je ne suis pas super emballé. Par contre, l'auteur nous embarque dans sa passion et ça peut donner des très belles choses.
Derrière l'objet livre, c'est la rencontre un peu magique entre l'éditeur et un auteur, Madalena Marin.
Il y a un auteur que j'ai appelé pour un livre Venise gourmande et créative et que j'ai appelé à 6h du soir et le lendemain à 7h du matin, elle est venue dans mon bureau de Venise en prenant l'avion parce qu'elle y croyait dans ce projet. Il y a un autre auteur très connu, Stéphane Ehome, que je ne connaissais pas et que j'ai rencontré à l'hôtel du TC à Paris et on a abouti à un livre sur Deauville avec une histoire rocambolesque mais qui met en valeur cette jolie ville de la côte avec une histoire un peu romancée. C'est des rencontres comme ça.
Éditer, c'est aussi prendre des risques et y croire, Grégory Pic.
Il y a des fois des projets complètement fous qu'on va prendre. Alors ça ne marche pas toujours comme on voudrait, mais je dirais la première satisfaction, c'est d'avoir des fois édité un premier auteur ou un premier sujet. C'est un peu notre principale motivation de se dire ça n'a jamais été fait, donc pourquoi on ne le ferait pas ? Et après, ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est un petit peu le loto, j'allais dire. Un auteur qui nous a proposé un sujet sur le grillage américain. Donc ce fameux grillage qui était utilisé par les Alliés pour permettre aux avions d'atterrir dans des champs. Ce qui est assez formidable avec le grillage américain et qu'on parfois on ignore parce qu'on le voit au quotidien, il y a encore énormément de restes du grillage américain partout, dans les campagnes, dans les villes. Parce que c'est utilisé par exemple pour faire des clôtures dans les champs, mais aussi il y a par exemple tout un quartier de Caen où le grillage a été totalement repeint, donc on a l'impression que c'est une clôture des années 50, mais c'est fait à partir de grillage américain. Et quand cet auteur m'a contacté, j'ai dit il faut absolument que je le rencontre, ça n'a jamais été édité. Et puis voilà, c'était assez improbable de trouver un auteur qui travaille sur le sujet depuis 25 ans, qui s'est passionné pour ce sujet. Et donc on a quand même réussi à faire un ouvrage de quasiment 400 pages.
Et que vous avez réussi à vendre.
Oui, on l'a vendu. Alors c'était certes un tirage un peu plus limité, mais oui, on peut considérer que comme on a vendu plusieurs centaines d'exemplaires, c'est plutôt une réussite par rapport à un sujet qui est un sujet vraiment de niche pour le coup.
Voilà, Grégory Pic des éditions OREP sur un sujet d'ouvrage improbable, le grillage américain et son réemploi.
Je suis artiste dans mon âme, vous l'avez compris.
Éditer, c'est peut-être un peu aussi une activité artistique, Madalena Marin.
Donc, j'étais pas une salariée des éditions de Falaise. J'ai toujours géré pour une passion, j'ai toujours géré le livre comme si c'était une œuvre d'art. À la fin, c'est le résultat qui compte, et le résultat est plutôt positif. Donc, je me dis, finalement, ça valait la peine.
C'était l'histoire du premier groupe normand d'édition, fruit du mariage entre l'OREP et les Falaises. Leur catalogue commun de 1100 titres, désormais dédiés à l'histoire, le patrimoine et les arts en Normandie, est accessible sur le site des éditions de l'OREP. Nous restons dans le monde des livres et ouvrons un autre catalogue avec les romans Le voleur de vie, Trois saisons d'orage, Une bête au paradis, Le visage de la nuit, le dernier-né, et le recueil de poèmes Les ronces, car il est 17h15 en direct sur Radio HDR et un souffle de poésie vient d'entrer dans notre studio.
Les pieds dans la lune, un invité sur Terre. Cécile Coulon, bonjour, bienvenue dans Les pieds dans la lune.
Bonjour.
Alors, je l'ai souvent dit à cette antenne et ailleurs, mais il me faut prendre le risque brûlant de vous le dire en face. Cécile Coulon, vous êtes un peu pour moi ce que Daenerys Targaryen est à Game of Thrones et aux Sept Royaumes, la reine des dragons, en l'espèce des volcans. Vous avez une activité littéraire totalement triomphante, romancière et poétesse prolixe, éditrice, animatrice de radio, animatrice de réseaux sociaux, aide aux nouveaux écrivains. Alors ma première question qui vous a sans doute été posée 1000 fois, quelles sont vos sources et où allez-vous puiser cette énergie créatrice ?
Merci. Déjà, après, je ne suis pas la mère des dragons parce qu'elle finit mal. Il faut quand même le signaler dans la série. Mais ça me va. Où est-ce que je puise ? En fait, moi, je n'ai pas l'impression de faire toutes ces choses. c'est toujours quand on me le rappelle que je me rends compte que ça fait beaucoup. Mais je crois que quand on aime écrire et quand on aime lire, il y a tellement de métiers différents, il y a tellement de domaines, il y a tellement de façons de parler des livres, d'en écrire, de les promouvoir, de les faire lire aux autres, d'apprendre à tout le monde à écrire, que les journées font 24 heures, je dors 8 heures, après il reste du temps quand même. Voilà, il faut avoir un tableau Excel de la journée dans la tête.
Alors, votre dernier roman, Le visage de la nuit, nous replonge dans l'univers du précédent, La langue des choses cachées. Lieu peu défini, intemporel, sobrement tellurique. Vous n'en aviez pas fini avec le fond du puits comme territoire ou avec sa communauté ?
En fait, quand j'ai terminé d'écrire le roman précédent, La langue des choses cachées, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de partir de cet endroit. Je me suis dit, en fait, ce village, c'est la somme de tous les villages que j'ai racontés avant. C'est l'endroit où je me sens bien en fiction, c'est là où j'ai envie de continuer à raconter la vie des gens qui y vivent. Et donc, je me suis dit, soit je suis honnête et je reste là, soit je suis malhonnête et je vais créer un autre village qui va lui ressembler trait pour trait. Je vais juste changer le nom et ça passera. Et donc, je me suis dit, je vais rester et je vais juste taper à la porte d'une autre maison pour raconter une autre histoire. Mais ça n'en finit jamais. Je pourrais écrire encore 10 livres qui se passent au fond du puits.
Alors, le sujet de votre thèse, si mes informations sont exactes, était le sport et le corps dans la littérature française contemporaine. Dans votre œuvre, la question du corps est très présente, comme manière de rédemption, notamment dans ce bel ouvrage qui est Le cœur du pélican. Mais cette question de la corporité et du corps semble centrale dans Le visage de la nuit. C'est le regard de l'autre qui nous permet de trouver notre voie, ou c'est quoi le...
Je crois que Alors, ma thèse, je ne l'ai jamais soutenue. Car flemme, comme on dit.
C'est bien le sujet quand même.
C'est tout à fait le sujet, absolument. Vous avez bien cherché, bien fouillé. Mais en tout cas, je crois que dans Le visage de la nuit, il est question du regard qu'on porte sur le corps de l'autre pour ne pas regarder le sien. C'est ça qui m'intéressait, c'est l'histoire d'un enfant qui est monstrueux, qui est laid à un point presque, comment dire, divin. C'est-à-dire qu'il est impossible à regarder, cet enfant, tellement il est laid. Et néanmoins, la plupart des personnes du livre, des personnages qui ont accès à lui, ne se regardent pas eux. Et pour moi, c'était la grande question du livre, c'était de se dire, quand on est face à une personne, un animal, je sais pas, un bâtiment, un être, quoi qu'est-ce, qui nous rebute, qui nous dégoûte, qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit de nos standards ? Qu'est-ce que ça dit de ce qu'on considère comme être de la beauté ou ne pas en être ? Et je pense que vivant dans un moment, vous avez parlé des réseaux sociaux, hein, et moi je les ai beaucoup investis, et je sais à quel point le corps, le regard, la manière dont on pose ou de la manière dont on ne pose pas, et ça marche pour notre corps, mais ça marche aussi pour nos intérieurs, pour notre maison, pour nos appartements, à quel point ça compte ? À quel point ça fait ou défait des vies. Et je crois qu'en écrivant ce texte, c'était aussi de dire, mais qu'est-ce que vous faites de tout le reste ? C'est-à-dire de tous les gens que vous ne voyez pas et que vous ne voyez pas parce qu'ils sont trop difficiles à regarder.
Alors, il y a aussi de manière récurrente dans vos ouvrages l'histoire de la communauté, du lieu où on vient, où l'on est. Et parfois, j'ai l'impression que ce lieu semble, de naissance, c'est le seul qui peut faire réellement communauté, vous faire appartenir à cette communauté. C'est très marqué dans Trois saisons d'orage, par exemple, qui est aussi un lieu un peu excentré, un peu atypique, qui est défini, mais qui finalement ne se définit pas. On retrouve aussi ça dans Le visage de la nuit, où l'un des personnages est un orsin, puisqu'il y a une dualité, en fait, une opposition de deux personnages, et qui finit par ne pas trouver sa place, sans divulguer quoi que ce soit. Et l'autre, natif, qui finit par la trouver, en fait, dans cette communauté. Donc la question des racines, c'est important pour vous, qui êtes quand même très voyageuse, en fait. Voilà. Et comment c'est nécessaire pour faire communauté ou pas, en fait.
Je crois que la question, oui, de la communauté, pour moi, elle est importante, parce que ce que ça demande, c'est de dire, mais à quel moment on considère qu'on fait partie d'une communauté ? Est-ce que c'est là où on est né ? Est-ce que c'est là où on a été éduqué ? Est-ce que c'est notre langage ? Est-ce que c'est notre couleur de peau ? Est-ce que c'est la manière de s'habiller ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on partage avec d'autres gens qui ne l'ont pas non plus, et du coup, ça fait communauté ? C'est aussi... Moi, mon métier, c'est de poser des questions. C'est que les gens ouvrent des livres de poésie, de poèmes ou de romans, et qui se posent des questions, qui se disent, à quel moment, dans Le visage de la nuit, ces gens du même village, est-ce qu'ils font communauté, oui ou non ? Et s'ils le font, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui sont en marge ? Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui font partie de la communauté, mais qui sont relégués à la marge de la communauté ? Et pour moi, il me semble que, si je parle pour mon cas personnel, je connais le village d'où je viens, et j'en parle assez souvent, et je parle assez souvent de l'endroit d'où je viens en Auvergne. Néanmoins, je pense qu'on peut aussi faire partie de plusieurs communautés. Parce que Parce qu'en fait, moi, mon village, j'y vais plus très souvent. Est-ce que ça veut dire que j'y suis toujours attachée? Est-ce que ça veut dire que les gens se souviennent de moi? Est-ce que moi, je me souviens des gens qui y sont nés? Et en fait, toutes ces questions-là autour de qu'est-ce qui fait partie de nous au point qu'on a, nous, envie d'en faire partie. Je pense que c'est ça la grande question sur la communauté, mais ça fonctionne.